Alors, c'est un enseignement sur le noble chemin octuple. D'où vient ce nom? Eh bien, il vient des quatre nobles vérités. Quand le Bouddha a trouvé l'illumination, il s'est dit, il faut absolument que j'enseigne ça à tous les êtres vivants autour de moi, parce que j'ai trouvé une fin à ma souffrance. Et je voudrais que ce soit la même chose pour les autres. Ces quatre nobles vérités, la première, ceci est la souffrance. La souffrance existe dans ce monde. Et c'est inévitable. La deuxième, ceci est l'origine de la souffrance. C'est-à-dire que la souffrance a une origine. Elle n'émerge pas comme ça. De n'importe où, elle a une origine. La troisième noble vérité, c'est que s'il y a une origine, eh bien, on peut arrêter ce début. Donc, c'est la cessation de la souffrance. Et la quatrième noble vérité, c'est que comment on fait pour l'arrêter, cette souffrance? Eh bien, c'est la voie menant à la cessation de la souffrance qu'on appelle le noble chemin octuple. On l'appelle aussi le noble octuple sentier. Vous voyez, il y a plusieurs. Alors, je vais vous énumérer ces 8 étapes qu'on peut prendre en désordre. Il y a la vue juste. Tout est juste. C'est un nom et puis ensuite juste. Je les énumère, mais après on rentrera dans le détail. La pensée juste. La parole juste. L'action juste. Les moyens d'existence juste. L'effort juste. L'attention juste. Et la concentration juste. Et ce que dit le Bouddha, c'est que ceci est la seule voie conduisant à la purification des êtres, à la victoire du chagrin et des lamentations, victoire sur le chagrin et les lamentations, bien sûr, à la destruction de la souffrance physique et mentale, et à l'atteinte de Nibbana, c'est-à-dire l'illumination, à savoir les 4 établissements de l'attention. Donc ça en fait partie. Les 4 établissements de l'attention, c'est ce que vous connaissez, Satipatthana Sutta, c'est-à-dire les 4 fondements de la pleine conscience. Donc ce sont d'autres enseignements qui nous permettent finalement de travailler de façon juste avec ces différentes étapes. Et donc, pour être un peu plus clair sur c'est aussi appelé les huit marches vers le bonheur. Il y a plusieurs façons de le dire. Il y en a deux qui ont à voir avec la sagesse. C'est la compréhension juste et l'intention juste, ou l'aspiration juste. Cela mène, quand on agit de la sorte, à une deuxième catégorie qui est la moralité, et qui comprend la parole juste, l'action juste et le moyen d'existence juste. Et ça, ce sont des conséquences de la sagesse qui était le premier groupe. Et résultant de la moralité, il y a la discipline mentale qui se met en place, qui contient trois étapes: l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Et voilà tous les huit. Maintenant, on va rentrer dans le détail de chacun d'eux. Alors, dans la sagesse, la première étape, on parle de compréhension juste. C'est-à-dire que c'est important de ne pas se leurrer, de partir dans des illusions trompeuses, dans la confusion. C'est vraiment très moderne. Parce que tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux et les mensonges et les fausses nouvelles et tout ça, ça va avec, c'est ça. Ça égare, ça mène à l'erreur. C'est terrible. On y arrive. Alors, cette confusion et cette illusion trompeuse, elle arrive quand on est coupé de ses émotions. Vous voyez, et quand on est enfant, justement l'enfant intérieur, quand l'enfant intérieur souffre énormément dans une situation, il ne se permet plus d'avoir des émotions parce qu'il n'est pas écouté, s'il n'est pas écouté par ses parents, par... Et donc, c'est là où... l'enfant intérieur se fourvoie et traîne cette confusion toute sa vie, jusqu'au jour où on veut le rectifier grâce à la méditation et la pratique. Cela arrive aussi quand on assume qu'on sait comment faire. On assume, mais on ne sait pas. Donc, on se fait des stratagèmes pour rassembler ses forces, au lieu de réaliser que ça ne va pas du tout. On fait confiance à la mauvaise porte. C'est comme dans un feu de forêt, on court sans savoir si c'est la bonne sortie. C'est terrible. Et on arrive à un mur de feu, de flammes, par exemple, ça peut arriver, sans issue. On manque donc de visibilité, mais on fonce quand même. Ça, c'est quelque chose que je vois dans la société moderne. On fonce tout le temps et on ne regarde même pas ce qui se passe. Et c'est ce que disait ce président là, le monde brûle et on regarde ailleurs, quelque chose comme ça. Alors, quand on fonce, eh bien, ça évite de nous faire ressentir l'anxiété et l'angoisse. On fait quelque chose. C'est tout à fait faux. C'est la mauvaise chose. Ça libère le stress accumulé. C'est un faux ami, quoi. C'est temporaire, c'est sans issue. Ça mène à une vie fragmentée, des vues rigides qui donnent une illusion de sécurité. Ça entraîne finalement un manque de confiance en soi, parce qu'on se rend compte qu'on est en train de se perdre et qu'on n'a pas vraiment les réponses. Et on ne prend pas le temps de faire le point. C'est ça le problème. Alors on s'accroche à des savoirs, des diplômes, des connaissances, des tas de choses. Ça fait bien. On assume qu'on sait tout sur la question, le problème. Et on ne laisse pas venir l'ombre d'un doute. On est sûr et certain. Il n'y a pas de place pour les états d'âme là-dedans. Et donc, il y a des certitudes. Hein, c'est l'exemple du Titanic. Voilà. Donc, compréhension juste veut dire sortir de la confusion et de l'illusion trompeuse. Et vraiment avoir le discernement de voir où est-ce qu'on s'égare? Où est-ce que c'est dangereux? Voilà la compréhension juste, qui fait partie de la sagesse. La sagesse a une autre étape, c'est l'intention juste, ou bien l'aspiration juste. Et l'intention juste, c'est fascinant de comprendre que les actions, tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe, tout ce qu'on décide, va faire partie d'une tresse où il y aura trois liens qu'on va tresser. Les trois sont l'intention, le deuxième c'est l'attention, qu'on verra tout à l'heure, et le troisième c'est l'objet. Et l'intention, c'est vraiment un article de la sagesse très important. Imaginez une personne qui sort du centre de réhabilitation de la drogue, et qui est clean. Hein. Eh bien, si la seule chose, dès qu'elle passe la porte, est de penser à la prochaine fois qu'elle va prendre sa dose, l'intention est déjà là, c'est foutu. Ça, c'est l'intention. Et cette intention va entraîner la personne à porter son attention, sur l'objet, la drogue. Ces trois-là travaillent ensemble dans une tresse qu'on ne peut pas défaire. C'est très difficile, cette tresse est très solide. Et c'est là où c'est difficile de changer, surtout avec l'intention. Donc, je vais passer aux autres marches du chemin octuple. Une conséquence de la sagesse, quand on sait appliquer la compréhension juste et l'intention juste, eh bien, c'est la moralité, c'est une conduite éthique. Alors, il y a une personne, je ne sais pas si c'est un philosophe, il a écrit quelque chose de très intéressant. Il a fait une enquête sur les principes de la morale. J'aimerais bien vous le lire. Il constate 4 groupes de qualités. Il y a un groupe où les qualités sont utiles aux autres. Elles procurent un avantage indirect. Mais il y a la bienveillance, la justice, la fidélité. Il y a un autre groupe qui est utile à leur possesseur de la morale, du principe. Alors que le premier groupe, c'est utile aux autres. Là, c'est utile à soi. Ça comprend la discrétion, l'industrie, la frugalité, la force d'esprit, le bon sens. Il faut avoir toutes ces qualités. Il y en a une troisième catégorie qui est agréable à leur possesseur. C'est-à-dire que ça va m'être agréable si j'utilise ces principes. Et elle procure un avantage direct. C'est la magnanimité, le courage, la tranquillité et la gaieté. Et là, on le reconnaît, c'est une évidence. Et il y a une quatrième catégorie, ce sont les principes qui sont agréables aux autres. Puisque avant c'était à soi. Il y a la politesse, la modestie et la décence. C'est intéressant de classifier ça comme ça. Hein. Voilà, je voulais juste vous en parler. Et Louis Powells, je ne sais pas si c'est lui qui a commencé les éclaireurs, les scouts.
Ah oui.
C'était lui?
C'est Powells. Je n'ai pas dit Louis.
Alors il dit, il n'y a qu'une morale. Vaincre tous les obstacles qui nous empêchent de nous surpasser. Donc, se dépasser est important. Aller au-delà de notre petite vie, nos petites aspirations, et aller outre. Alors, donc, faisant partie de la moralité, il y a 3 étapes. D'abord, la parole juste, la première étape. J'y mettrai là-dedans la communication non violente, bien sûr. Et c'est parfait. Ça fait partie du chemin, du noble chemin octuple. Aussi, mon professeur de méditation aux États-Unis, Narayan Libenson Grady, nous parlait de la parole juste. Elle disait justement, la retraite, celle que vous faites là en ce moment, permet de se détourner des souillures mentales. Ça nous aide. Alors, dans une retraite silencieuse, c'est étrange d'entendre une causerie sur la parole juste, hein, puisqu'on ne parle pas. Mais c'est seulement dans le silence qu'on commence à entendre notre dialogue intérieur. C'est pour ça que le silence est important. On commence à voir les habitudes qui s'y sont installées en nous. en observant le ton, le vocabulaire que nous y employons, même dans notre tête. Donc, au sujet de cette parole juste, il y a trois aspects dont Narayan parlait. Ce sont des suggestions, des enseignements et des conseils à suivre pour justement arriver à une parole juste. Il s'agit d'observer notre intention de parler. Il y a d'abord donc une écoute de soi-même avec compassion. Car parfois cela révèle la confusion de notre esprit. L'identification de la conscience au mental qui ne voit que les apparences. Et qui s'identifie à des pensées, des émotions et des états d'âme qui sont peut-être délétères, inutiles, enfin non, pas inutiles, on les vit, mais qui nous empêchent de trouver la parole juste. Qui nous entraîne à ouvrir le bec, la bouche, et dire des choses qui n'ont pas lieu d'être. Des bêtises peut-être, des choses qui ne sont pas justes. Il ne s'agit pas de chercher la perfection dans la parole juste, seulement d'apprendre à questionner, se connaître, pour se désengager de nos thèmes répétitifs. C'est ça. Et c'est là où le silence est formidable, parce que on peut faire ça dans le silence. De se dépêtrer de schémas appris dans notre famille, on peut désapprendre de façon judicieuse. On peut remarquer combien notre langage intérieur se teinte d'attitudes pénalisantes, sévères, accusatrices envers soi-même ou envers les autres. Ou d'autres façons qui montrent de l'appréciation, de la compassion et de l'ouverture. C'est là où on va apprendre à sélectionner ce qui est juste. Donc, c'est important de comprendre quelle est l'intention derrière ce qu'on veut dire, quand on le dit tout fort. Donc ça, ce sont une des suggestions d'observer ce qui est en train de se tisser à l'intérieur de nous et qui va sortir avec des mots, et d'observer si les mots sont justes. En plus des mots, il y a l'expression visuelle qui donne le ton de justesse ou non. Alors, il faut faire attention de ce qui sort de notre bouche. Hein? Attention aussi de ne pas abuser en cherchant à vouloir tout dévoiler sans retenue. Ça, je l'ai remarqué chez les personnes qui sont des personnes avec des cas psychiatriques qui sont abîmées. Finalement, quand elles parlent, elle dévoile tout, elle déballe tout. Il n'y a plus aucune pudeur et on se sent très mal à l'aise. pour eux, pour elles, pour ces personnes. Alors, le deuxième aspect des suggestions, des enseignements, des conseils à suivre, c'est l'aspect d'unification. C'est-à-dire, il faut faire attention au langage qui divise, celui de la rancœur, du dépit contre quelqu'un. Par exemple, on cherche à appartenir à un groupe. Et on cherche à épater le groupe en parlant de la personne absente, par exemple. C'est le bouc émissaire, le souffre-douleur. Il faut donc devenir conscient de ces mécanismes quand on travaille la parole juste. Et confronter ces intentions malveillantes qui ont germé en nous. Donc, quand on est en silence, dans les retraites silencieuses, ce n'est pas du tout de l'évitement, au contraire. C'est plutôt un désir de prendre conscience afin de se confronter. Le troisième aspect, c'est la bienveillance. Et ça, dans la parole juste, ça joue très fort. Parce que si on part dans la justification, par exemple, on se perd, on devient aveugle, on utilise nos défenses, on essaye de se protéger. Ça montre de l'ennui, de la honte, de la panique, de l'angoisse, de l'indifférence, tout ça. Donc, c'est intéressant de réaliser que la parole juste, ça va être quelque chose qui communique notre bienveillance. Si ça ne le communique pas, il vaudrait mieux qu'on se taise et qu'on observe qu'est-ce qu'on veut dire, quel est notre message et comment peut-on donner ce message s'il est important, en faisant attention à ce que la personne, l'autre personne ou le groupe ne soit pas trop blessé. Voilà. Donc ça, c'était la parole juste, qui est une des premières marches de la moralité. Ensuite, il y a l'action juste. Et ça, on le sait, parfois, on a des actions qui ne sont pas justes. Et c'est dommage parce qu'on les a faites et c'est trop tard. Et c'est là où c'est important d'avoir plus de clarté sur les actions justes. Je vais vous lire quelque chose de Nelson Mandela, parce qu'il a beaucoup de clarté là-dessus. Il disait: la résistance passive non violente est efficace tant que notre adversaire adhère aux mêmes règles que nous. Mais si la manifestation pacifique ne rencontre que la violence, son efficacité prend fin. Alors il dit, pour moi, la non-violence n'était pas un principe moral, mais une stratégie Et il dit, il n'y a aucune bonté à utiliser une arme inefficace. Il ne faut pas se lancer là-dedans. Si on sait que l'autre personne n'est pas réceptive et qu'elle ne veut pas nous entendre. Vous comprenez? Donc la parole juste veut que nous choisissions aussi quand, à qui nous le disons et comment. Parce que si on sait que c'est mal reçu, ou que c'est, eh bien, ça ne vaut pas le coup de parler. Il vaut mieux trouver d'autres canaux. Donc, ça tombe dans l'action juste parce que, justement, c'est là où on décide, est-ce que je vais agir, parler, ou est-ce que je vais me taire et trouver d'autres moyens. Voilà. Donc, on va passer à la marche suivante, parce que des actions justes, on les connaît, on sait ce qu'il y a à faire, et donc on a juste à les faire quand c'est le bon moment. Et la dernière marche de ces trois discipline mentale de la moralité, c'est le moyen d'existence juste. Et ça encore, c'est un gros morceau. C'est un gros morceau pour, par exemple, les jeunes qui vont au service militaire pour apprendre à être soldat. C'est une grande question. On apprend à tuer, on apprend à se battre. Et là, je n'ai pas la réponse, puisque dans le cadre d'Ukraine, on apprend à se protéger et à arrêter l'ennemi, l'invasion. Il y a aussi le travail dans les abattoirs, par exemple, où les personnes, les ouvriers des abattoirs, finalement, passent leur temps à tuer des bêtes. Et ça doit être très lourd, je ne sais pas, on ne peut pas... On ne peut pas laisser l'émotion venir quand on fait ce genre de travail. Ça nous coupe de la vie, puisque notre travail, c'est de donner la mort. Je donnerai d'autres exemples. Il y a aussi les traders, ceux qui font du profit avec l'argent, à la bourse, etc., sur le dos des autres. Et ce sont les multinationales qui se mettent tout dans les poches, on le voit, on l'entend, et qui fait un tiers monde de plus en plus pauvre, qui meurt de faim. Donc tout ça, ce sont des moyens d'existence qui ne sont pas justes. Il faut se poser la question et se dire non, j'adhère pas, et donc je n'ai pas l'intention de mettre mon argent dans des actions qui sont non méritoires, etc., etc. Et si c'était le cas pour la plupart des gens dans le monde, on n'aurait pas la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Alors, on a fait les trois étapes du noble chemin obtus vis-à-vis de la moralité et de la conduite éthique. C'était la parole juste, l'action juste et le moyen d'existence juste. Maintenant, on va faire les trois de la discipline mentale. Cette discipline mentale, elle résulte de la moralité. À partir du moment où on veut appliquer la moralité, on commence à avoir une discipline mentale. On commence à vouloir être plus juste dans notre façon de vivre, Alors, la première étape, c'est l'effort juste. Et c'est intéressant parce que l'effort juste, c'est une des cinq facultés de l'éveil. L'effort juste, pour comprendre de quoi il s'agit, c'est que quand vous commencez à méditer, vous vous dites, je vais faire 45 minutes. Il faut faire un effort au début pour se concentrer. Donc, on fait un gros effort pour avoir un petit peu de concentration. Mais si l'effort est juste, petit à petit, on a plus de concentration et on a moins d'efforts à faire. Et donc, ces deux pôles, l'effort juste et la concentration juste, qui est la dernière marche, eh bien, ils jouent ensemble. Et le fléau qu'il y a au milieu de cette bascule, c'est la pleine conscience, c'est-à-dire l'attention, la pratique de l'attention. Et ce sont les trois derniers de la discipline mentale. Il faut faire un effort juste, il faut avoir l'attention juste et la concentration juste. Alors, l'effort juste, qu'on appelle aussi la persévérance, c'est aussi une des 10 perfections. Et chaque fois qu'on touche à un mot, ça va toucher à toute une catégorie autour. Et je vais vous parler des perfections, puisque elles sont importantes. Il y en a 10. Et elles nous aident quand on les pratique, on appelle ça les paramises ou les paramitas. Ce sont des valeurs intrinsèques. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qu'on peut acheter au magasin. Ce sont des choses qu'on pratique et qui grandissent à l'intérieur de nous, avec une source inépuisable. Il y a la détermination, le discernement, la bienveillance, la vérité, la vertu, la persévérance, le renoncement, la générosité, l'endurance, l'effort juste, l'équanimité. Voilà. Donc, c'est intéressant de remarquer que l'effort juste, finalement, c'est dans cette liste. L'effort juste nous aide à respecter les préceptes en agissant de façon habile et en abandonnant ce qui est malhabile. Et les préceptes, je vais vous les dire, afin que vous vous souveniez de quoi il s'agit de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas prendre de drogue ou d'autres choses qui changent, ou d'alcool, etc. Et le dernier, de ne pas avoir de relations sexuelles inappropriées, qui n'entraînent pas le respect de l'autre, etc. Voilà ces préceptes. C'est un peu comme la Bible qui dit qu'il y a les 10 commandements. C'est un peu cette idée. Donc, pour comprendre l'effort juste, il est dit, les choses qui font du mal sont faciles à faire et les choses qui font du bien sont difficiles à faire. Voilà l'effort juste. Il s'agit de faire les choses qui sont difficiles à faire. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effort juste. Ensuite, donc, on passe à l'attention juste. Et l'attention, si vous vous souvenez, fait partie de cette tresse. Il y avait l'intention, il y a aussi l'attention, et le troisième, c'est l'objet. Et cette tresse est indestructible. Ça fait une corde qui peut tenir un navire, tellement c'est fort. Et donc, c'est très difficile à défaire. Et pour l'attention juste, j'adore cette petite histoire. C'est un maître américain, Jack Kornfield, qui en parle. Ou c'est Joseph Goldstein. C'est Joseph Goldstein. Il parle du pouvoir de l'observation. Et c'est un article qui a été déniché sur ce naturaliste suisse, Louis Agassiz, qui décrit comment il enseignait la capacité de regarder, de voir et d'observer avec grande précision. C'est aussi un des grands paléontologues du 19e, Louis Agassiz. Il voulait mettre tout le fardeau de l'étude sur ses étudiants dès l'interview initiale d'inscription aux études de naturaliste. Alors quand l'étudiant arrivait et il disait « Oui, je veux faire des études avec vous », Agassiz demandait à l'étudiant « Quand voulait-il commencer ?» Et si la réponse était « Maintenant », l'étudiant était immédiatement installé devant un plat en étain contenant un poisson mort depuis longtemps. Il était en état de fermentation, de putréfaction, et sentait très mauvais. Le maître le choisissait parmi une multitude de poissons à grande gueule ouverte et exposé sur l'une de ses étagères. Il y en avait plusieurs. C'était un spécialiste dans toute la faune marine. Il demandait donc aux novices de bien regarder le poisson, puis il partait, pour ne revenir que plus tard dans la journée. S'il revenait ce jour-là, non, le pauvre étudiant, l'un des étudiants nommé Samuel Sander décrivit l'expérience. En 10 minutes, j'avais vu tout ce qu'on peut voir de ce poisson. Une demi-heure passa, puis une heure, puis une autre heure. Le poisson commençait à devenir exécrable. Je le retournais, puis le faisais pivoter, puis je le regardais de face. C'était une horreur immonde. Je le regardais de l'arrière, de dessous, de dessus, de biais, puis de côté, toujours aussi répugnant. J'étais désespérée. Je ne pouvais pas utiliser de loupe, car tout instrument était interdit. Les seuls outils possibles étaient mes deux mains, mes deux yeux et ce poisson. Je trouvais cela très limité. Je décidai d'enfoncer mon pouce dans la gorge pour sentir combien ses dents étaient pointues. Puis je finis par compter les écailles sur les différentes rangées jusqu'à la conviction que c'était une perte de temps. Enfin, j'eus une idée de génie. J'en ferai un dessin de ce poisson, mais plus tard. Et quelle ne fut ma surprise de découvrir de nouvelles caractéristiques. Quand Agassiz revient pour relever les observations de Samuel Sander, son seul commentaire fut qu'il devait continuer. « Regardez encore, » dit-il, puis il repartit. « J'étais désespérée, » disait Samuel, « mortifiée face à cette tâche que j'avais cru terminée, mais je décidais finalement de m'y remettre avec une plus grande volonté. C'est ainsi que je découvris de nouvelles caractéristiques, les unes après les autres. Si bien que l'après-midi passa rapidement. Ça me rappelle ce qu'on fait en méditation. Si on observe quelque chose très précisément, ça passe très vite. On n'a pas vu l'heure passer. Puis à l'aube, Agassiz revint me voir et me demanda « L'as-tu bien vu enfin ?» Je répondis « Non, j'en suis certain et je sais que je n'avais pas remarqué grand-chose avant. » Ayant pensé au poisson pourri une partie de la nuit, j'eus une idée géniale. « Le poisson !» annonça Sander à Agassiz. « À des côtés symétriques, avec des organes par paires. »« Bien sûr, bien !» dit Agassiz, assurément très content. Sander lui demanda ce qu'il devait faire ensuite, et Agassiz répondit « Oh, regarde bien ton poisson !» Pour Sander, la leçon de choses dura 3 jours pleins. Regarde, regarde, était la meilleure leçon qu'il n'avait jamais reçue. C'était un héritage d'une valeur inestimable, disait-il, qu'il ne pouvait acheter et qu'il ne pourrait jamais oublier. C'était le premier jour de sa formation. Ça, c'est l'attention juste. J'aime beaucoup cette histoire. Voilà. Il y a aussi Patricia Genoux qui parle de l'attention juste. C'est un professeur de méditation suisse. Et elle donne des retraites, tout ça. Et j'avais pris des notes. Et ce qu'elle disait, c'est que l'attention juste apporte la lumière. Et au lieu de fuir ou se débattre face à l'adversité, on observe et on simplifie. On cultive une qualité de présence réceptive et on lâche la résistance. Ce qui n'est pas du tout de la passivité ou de la résignation. Elle dit aussi, c'est une liberté inconditionnelle. C'est l'intimité avec la réalité sans le voile. C'est difficile à pratiquer, car nos réflexes sont la fuite ou la lutte ou l'immobilité. Elle dit aussi, c'est un processus et non un but ou un état à atteindre. L'attention juste de la méditation pointe le projecteur sur nos tendances et réflexes qui perpétuent la résistance et sapent notre énergie. Ensuite, on a les outils pour la vie ordinaire. Mais avec cette attention juste, on filtre. On a la capacité de filtrer. Sinon, la réalité est recouverte par les réactions d'avidité et de rejet. Donc, la dernière des disciplines mentales, c'est la concentration juste. Et c'est aussi, donc, comme je vous avais dit, un des cinq facteurs de l'éveil. Y compris l'attention juste, puisque c'est la pleine conscience. Et c'est le fléau entre l'effort juste, qui est un des facteurs de l'éveil, et la concentration juste. Donc ces trois-là jouent ensemble. Il y a un Américain qui s'appelle Richard Shankman, S-H-A-N-K-M-A-N. Et il a écrit un livre sur la concentration. Je l'ai à la maison, il est magnifique. Je le lis et le relis parce qu'il parle de différents états de concentration et chacun des maîtres qu'il interviewe va en parler différemment, suivant son expérience. Et il dit qu'il y a deux types de concentration, qu'on appelle aussi samadhi, en pali ou en sanskrit. Et les deux, de toute façon, sont sans distraction. Alors, il y a la forme exclusive de concentration où les sensations sont exclues au bénéfice de l'exclusivité sur un seul point. C'est vraiment focaliser son attention un peu comme une loupe. On focalise tous les rayons du soleil et ça fait une flamme. Ça, c'est cette concentration pure, cette forme. Le flot des expériences s'arrête. On n'est jamais distrait. Il y a des personnes qui ont cette concentration juste. Toute expérience autre que la respiration, si on met la concentration dessus, s'estompe. Mais attention, parce que cette concentration est très dangereuse. Ça entraîne les personnes à booster leur ego en disant qu'ils arrivent à faire quelque chose que les autres n'arrivent pas à faire. Ça leur donne beaucoup de force. C'est un peu l'image d'un 4x4. Ces voitures énormes. Et les 4x4, ils vont vite. Ils vont sur tout terrain. Seulement, ils ne regardent pas les libellules, les papillons, tout ce qu'ils écrasent sur leur route. Et quand ils sont sur l'autoroute, ils vont tellement vite qu'ils peuvent facilement rentrer dans une voiture et sans s'en rendre compte. Ils sont tellement lourds. Voilà. Ça mène à une concentration, finalement, qu'on pourrait dire erronée. Parce que la personne se perd dans une idée de ce qui est bon, mais finalement, c'est tout à fait faussé. Ça mène à des dérives de pouvoir, ça mène à tout ça, l'avidité. L'autre forme de concentration, qui est la concentration juste, qui est meilleure, c'est une concentration inclusive. L'esprit s'arrête, mais il est entièrement présent, il est clair, il est ouvert, il est inclusif du champ de la conscience sur le déroulement des sensations et des perceptions. C'est ce qu'on fait en pleine conscience. Quand on pratique la pleine conscience, c'est cette concentration. On inclut tout ce qui se passe autour de soi. Toutes les expériences de la vie sont là, mais l'esprit reste calme, centré, et en paix. Voilà. Et Richard Shankman dit que ces deux formes, de toute façon, protègent notre esprit. Alors, j'ai juste une dernière chose à vous raconter qui est très rigolote. C'est Mathieu Ricard qui en parle dans un de ses livres. Un homme dans la soixantaine dit à Mathieu Ricard: mon problème, c'est les femmes. Je pense tout le temps à elles. Avez-vous un conseil? Alors Mathieu Ricard, il montre l'océan si vaste devant eux, le ciel immaculé. Et il lui dit, regardez cette immensité si limpide, si lumineuse et si simple, la beauté du monde. Si vous laissez votre regard et votre esprit s'y fondre, n'avez-vous pas le sentiment d'être bien loin de votre obsession? Et le monsieur de la soixantaine l'a regardé d'un air vaguement inquiet et s'est exclamé: mais il n'y a pas de femme dans le ciel. Voilà. Ça vient du livre « Trois amis en quête de sagesse ». Voilà. Merci. J'ai teinté la clochette.